Aujourd'hui, nous vous emmenons en voyage avec la compagnie de train autrichienne OBB et son fabuleux Nightjet, le train de nuit de mes rêves. Imaginez vous quitter Paris ou Strasbourg à la nuit tombée et vous vous réveillez doucement en Autriche après un gros dodo sur les rails. En quelques heures, vous voilà dans le centre-ville vibrant de Vienne, prêt à explorer ses cafés charmants et ses rues historiques. Pendant ce green trip en train, vous pouvez aussi faire escale à Salzbourg, la ville de Mozart, à Linz, avec sa scène artistique avant-gardiste, ou encore à St. Pölten, une petite ville géniale et hors des sentiers battus d'Autriche. Alors, si l'idée de voyager de manière confortable, écologique et sans tracas vous séduit, pensez direct au Nightjet d'OBB. Personnellement, j'ai déjà booké une escapade en famille parce que je rêve d'un chocolat viennois après une nuit cosy dans le train.
Bonjour, c'est Marie et vous écoutez Beau Voyage. De l'ascension du Merapic au Népal, au tour du monde en famille, du road trip au Chili au bivouac en âne dans les Pyrénées, vous entendrez des hommes et des femmes qui partagent leurs aventures hors des sentiers battus. Des aventuriers ordinaires qui vous racontent leurs aventures extraordinaires. À deux ou en tribu, à l'autre bout du monde ou en bas de chez eux, avec trois sous ou en claquant leur PEL, ces voyageurs nous confient leurs histoires, leurs galères, leurs bons plans et leurs coups de cœur. Sur Beau Voyage, nous allons vous prouver que l'aventure est partout et à la portée de tout le monde. Alors montez le son et venez rêver avec nous.
Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai cette chance-là de toujours avoir un regard d'enfant sur pas mal de trucs et d'arriver à régénérer mon cerveau. Et j'ai beau être au fin fond de l'Auvergne, incroyable encore une fois, mais tu vois, genre, et être avant sur un volcan au Guatemala, bah, je pense que j'aurais quand même le même niveau de bonheur et de genre me dire quelle chance j'ai d'être ici.
Bruno Maltor est le plus grand influenceur voyage de France. Grâce à ses incroyables vidéos, il est aujourd'hui suivi par plus de 2 millions d'abonnés. Il sillonne la planète, promeut le voyage responsable, notamment le train, et fait rêver sa communauté. Avec son sourire et sa bonne humeur, ce passionné nous raconte les dessous de ce métier pas comme les autres, de ses débuts en 2021 avec son blog, à son quotidien aujourd'hui d'influenceur star. Il nous parle contenu, sponsor et business, mais aussi danger de l'intelligence artificielle et respect de la planète. Pour Beau Voyage, il revient sur les aventures qui l'ont vraiment marqué, nous raconte son incroyable expérience dans le Canadien, le train mythique qui relie Toronto à Vancouver, ou encore son épopée jusqu'à la Sicile. Hello Bruno.
Salut.
Merci, je suis trop contente, c'est ce que je te disais, de parler avec toi aujourd'hui. On est fans chez moi et j'ai deux garçons qui regardent tes photos tous les jours et qui m'ont dit ce matin, tu lui diras comment c'était le Japon et le train, etc. Donc tu nous fais rêver tous de 7 à 77 ans. Donc je suis hyper contente. Est-ce que tu peux te présenter pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas encore ?
Il y a plein de gens qui ne me connaissent pas encore, ça va. Mais donc je m'appelle Bruno Maltor, c'est vraiment mon prénom, j'ai un prénom de tonton. Enfin, j'en parle à mes parents un jour.
Un prénom de vieux.
Et je viens d'un petit village de Haute-Loire, de 200 habitants, un lieu-dit. Donc j'ai grandi là-bas, un endroit incroyable, en Auvergne, meilleure région de France, bien évidemment. Et depuis tout petit, j'ai un attrait pour l'ailleurs, on va dire, parce que pour l'anecdote, mes parents avaient mis une immense carte du monde à côté de mon lit. Vraie histoire, hein, tout ça. Et en fait, je m'amusais à apprendre le nom des capitales de tous les pays du monde à 5-6 ans, quoi. Et je demandais à mes parents de me faire réciter. Pour moi, c'était un peu une sorte de Disney, de Avatar. J'y croyais pas trop. Je voyais ces noms de villes, Ottawa, Washington, etc. Et j'apprenais tout le temps les capitales, parce que je trouvais ça fou. Et après, en grandissant, je me suis rendu compte que ça existait vraiment, tout ça. Et j'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir voyager. Alors, j'en ai une famille plutôt classe moyenne avec laquelle j'ai pu surtout voyager en France dans ma vie. Je n'étais jamais sorti de l'Europe jusqu'à mes 18-19 ans, on va dire. Et du coup, j'ai pris des stages à l'étranger. J'ai fait tout ce que je pouvais pour pouvoir voyager et vivre à l'étranger aussi. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pas mal bouger lors de mes études, en joignant l'utile à l'agréable. Et après, j'ai lancé un blog voyage en 2012, qui est devenu mon métier naturellement au fil des années. Et aujourd'hui, j'ai 2 millions d'abonnés, à peu près un peu plus, sur toutes mes plateformes, en cumulé, que ce soit Instagram, TikTok, YouTube, LinkedIn même. Plein de plateformes et c'est un métier assez ouf. Je suis blogueur voyage, on va dire.
Donc, ce n'était pas un choix de vie ?
Pas vraiment, parce qu'en 2012, quand tu lances le blog voyage, quand je l'avais lancé, Bah, il n'y avait pas de métier. Et d'ailleurs, quand je disais à mes potes, les gars, j'ai lancé un blog voyage, c'était moins cool, entre guillemets, qu'aujourd'hui, quand tu dis à tes potes, je lance un projet de, je sais pas, compte Instagram, podcast ou que sais-je. Mmh. Tu sais, à l'époque, c'était un peu nul parce qu'on jurait surtout par les grosses boîtes, etc. Toujours pour l'anecdote, moi, j'étais en alternance chez TF1, en master 2 d'école de co. Et je me suis dit, bah, j'ai deux options. Soit je prends la sécurité, le CDI qui fera plaisir à papy, mamie, papa, maman, tout ça, tout ça. Soit je me dis, franchement, j'ai qu'une vie. En plus, j'avais un an d'avance dans mes études. Donc, je tente le truc et au pire, on verra ce que ça donne. Et c'est ça que j'ai fait. Et tous mes potes me disaient, mais t'es taré. Alors que je pense qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dirait plus, bah, c'est cool, t'as raison, tente ton projet et tout. Tous mes potes, quasiment, enfin 90% on va dire, m'ont dit, ouf, franchement, c'est TF1, prends TF1, c'est plus safe. Moi, j'étais en mode, non, j'ai envie de suivre un peu ma passion, mon cœur. Et ça, c'était en 2014. Et en 2014, on ne parlait pas encore vraiment du métier de créateur, influenceur entre gros guillemets comme on appelle ça aujourd'hui, mais c'est ce qui m'a permis aussi de prendre de l'avance peut-être sur ce monde-là, mmh. cet univers, ce secteur, et ce qui m'a permis de pouvoir me développer peut-être aussi plus rapidement, on va dire.
Mais comment tu t'es fait connaître alors ?
Il n'y a pas un moment particulier sur lequel je me suis fait connaître, mais c'est vraiment au fil du temps. Tu vois, c'est un effet boule de neige. Tu crées du contenu, il y a des fois ça va prendre plus que d'autres, etc. Mais c'est vrai que assez vite. Fin 2015, j'ai fait une vidéo qui a fait plus d'1 million de vues sur la Nouvelle-Calédonie. Tous mes chiffres sont organiques. Donc, c'était vraiment des partages, etc. etc. Et ça, ça m'avait fait gagner peut-être 10 ou 15 000 abonnés sur Facebook à l'époque, parce que Facebook était encore surpuissant. Aujourd'hui, c'est peut-être plus d'autres plateformes qui sont vraiment omniprésentes, mais voilà. Mais du coup, ouais, tu vois, il y a quand même quelques vidéos qui m'ont fait grimper plus vite les échelons. Mais je dirais que c'est le temps et la régularité. Enfin, tu vois, je sors une vidéo par semaine quasiment depuis 5-6 ans sur YouTube. Il n'y a aucun créateur qui fait ça dans le voyage. Pourquoi ? Parce que c'est hyper exigeant et qu'il faut être vraiment genre régulier. Là, j'ai passé un mois au Japon, on en parlait un petit peu avant. J'ai fait mes 10 vidéos YouTube, tu vois. Enfin, j'essaye d'être régulier, d'être constant, évidemment, de toujours faire de la qualité. Je ne suis pas là pour juste faire de la quantité, mais c'est ça que je fais une vidéo par semaine, c'est déjà beaucoup.
Énorme !
Ouais, c'est déjà beaucoup, mais voilà, c'est la régularité et le long terme qui fait que je pense aujourd'hui, j'en suis à ça. Et après, je pense que les gens aussi, ils apprécient bien mon univers, etc. Enfin, il y a aussi des gens qui se retrouvent dans ma façon de voir le monde, ma façon de partager les choses, ma façon de, tu vois, raconter des histoires peut-être. Tout ça fait aussi, je pense, qu'on peut s'identifier à moi. Mais avant toute chose, je pense que c'est la régularité qui paye et le fait de, tu vois, de tout donner, quoi, et d'avoir de la passion.
C'est quoi ta façon de voir le monde ?
Je pense qu'elle est assez naïve. Quand tu fais un tour du monde classique, il y a plein de gens qui font des tours du monde aujourd'hui. Après quelques mois, je pense que tu peux être blasé. Parce qu'une fois que tu as vu le Taj Mahal, Angkor Wat, tu sais, c'est un peu le parcours classique. Il y a un moment, tu vois, genre, tu arrives à Tokyo, tu es en mode, wow, c'est cool, mais voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, j'ai cette chance-là de toujours avoir un regard d'enfant sur pas mal de trucs et d'arriver à régénérer mon cerveau. Et j'ai beau être au fin fond de l'Auvergne, incroyable encore une fois, mais tu vois, genre, et être avant sur un volcan au Guatemala, bah, je pense que j'aurais quand même le même niveau de bonheur et de genre me dire quelle chance j'ai d'être ici. Je pense que c'est ça ma chance et je pense que les gens le ressentent ça. J'ai beau être n'importe où dans le monde, je kifferais quoi.
Tout le temps, quoi.
Et j'aurais, ouais, je serais quand même émerveillé par ce qui m'entoure. Je pense un peu cette chance-là d'avoir le côté toujours te rendre compte de la chance que tu as d'être là à un instant T. La chance d'avoir un passeport français, la chance, tu vois, de plein de trucs, mais je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup au quotidien pour raconter mes histoires parce que du coup, c'est fait toujours avec le cœur et la passion. Ça m'aide pas mal.
Ça change tout.
C'est pas triché, ouais.
Ah ouais, ça change tout.
Ouais, c'est ça.
Et alors, tu disais Nouvelle-Calédonie, mais comment alors t'as payé ces premiers voyages ?
J'étais en stage à l'étranger, par exemple.
D'accord. Donc là, tu as commencé à faire du contenu quand tu étais en stage, quoi.
Bah, du coup, mon blog, je l'ai lancé quand j'étais en stage de web marketing à Shanghai, en Chine. Web marketing, à l'époque, personne ne connaît. Web marketing, c'est comment être bien référencé sur Google, comment faire en sorte que les clients qu'on représentait via l'agence chez qui j'étais sortent en numéro 1 sur un mot-clé compétitif, concurrentiel, je ne sais pas moi, comme moi me concernant en tout cas, c'était blog voyage par exemple. Du coup, c'est pour ça que j'apprenais des compétences sur le web marketing, j'avais cette passion pour le voyage, je me disais, putain, mais c'est fou, genre, je peux peut-être créer un blog voyage, ça me fera marrer, je pourrais utiliser mes compétences que j'apprends en stage et on verra ce que ça donne. Et donc, du coup, c'est comme ça que ça a commencé. J'ai vécu à Montréal, j'ai vécu à Shanghai, j'ai fait mon échange universitaire au Pérou. Donc, j'ai voyagé en Colombie, j'ai voyagé en Équateur, j'ai voyagé en Bolivie. Et tu vois, tout ça, ça me permettait de créer du contenu. Mais du coup, je pouvais me payer ces contenus parce que j'étais payé lors de mon alternance, j'étais payé lors de mes stages. Et ouais, du coup, c'est comme ça que j'ai fait. Pour le coup, c'est vrai que les gens aujourd'hui, assez... comment dire, je sais pas si c'est de la jalousie ou de la facilité, mais des fois, moi j'ai très peu de gens, des haters, comme on appelle ça, j'en ai très très peu, mais des fois tu peux avoir un commentaire genre merci papa, maman.
Ouais, bien
moi,
sûr.
Moi, bien sûr que mes parents m'ont soutenu sur mes études, etc., etc., mais tous mes voyages que je me suis payé, tous c'est de l'argent que j'ai gagné, tu vois, en distribuant des gens dans la rue, en faisant des petits métiers, de hôte d'accueil sur des événements ou que sais-je.
Ouais, t'as bossé quoi.
Voilà, et c'est comme ça que j'ai réussi à payer mes voyages. Franchement. Je crois que quasiment tous, c'est ça.
Et le jour où tu décides donc de créer ton blog voyage, enfin que ça devienne ton métier, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui nous écoutent, qui adoraient avoir ton métier. Mmh. Alors peut-être que ce n'est pas si simple de le créer aujourd'hui par rapport à il y a 10 ans, j'imagine. Mais est-ce que là, tu te dis, bon, bah, alors maintenant, c'est mon job, donc je vais aller taper à toutes les portes des offices du tourisme ou toutes les portes des compagnies aériennes, je ne sais pas comment ça marche, je prendrai tes tips. Tu vois, qu'est-ce que tu fais concrètement le premier jour, jour 1 de...
Je pense que déjà... Avant toute chose, justement, il ne faut pas faire ça pour le monétiser, tu vois.
Okay.
Moi, quand je l'ai fait en 2012, encore une fois, il n'y avait pas de question de gagner d'argent avec ça. Je pense que la première chose à se dire, c'est je le fais parce que c'est ma passion, parce que je veux en bouffer matin, midi et soir. Sinon, tu arrêteras au cinquième jour, je pense. Mmh. C'est la première chose, c'est de te dire, OK, c'est une thématique. Nous, on parle de voyage aujourd'hui, mais il y en a qui peuvent être passionnés, je ne sais pas moi, d'équitation, d'échecs, que sais-je, tu vois. Genre, il y a
Bien
plein
sûr,
de passions.
Ouais.
Et donc, du coup, l'idée, c'est tu prends ta passion et tu essayes de créer du contenu en rapport avec ça. Si je devais le refaire, je pense que je ne le ferais pas comme je l'ai fait en 2012, parce qu'en 2012, on était dans un monde différent. Aujourd'hui, je pense que, par exemple, je ferais plus de vidéos, j'humaniserais au maximum mon contenu, parce qu'avec l'intelligence artificielle, on se rend compte de plus en plus que d'ici peut-être 2 ou 3 ans, des belles images, il y en aura partout. Il y a des rapports d'experts qui disent que 90% des contenus qui seront publiés sur Internet d'ici 2025, c'est littéralement
demain,
l'année prochaine, seront faits par IA. Donc ça veut dire qu'il faut arriver à humaniser son contenu et de plus en plus, on va nous suivre pour notre personnalité, pour notre façon de regarder le monde, de le partager, etc., etc. Pas juste parce que tu fais des belles images. Donc je pense que je ferai de l'humanisation au maximum. Et après, c'est uniquement après avoir créé une communauté sur une thématique. Si on prend le voyage, moi, je ferai une niche parce que des gros blogueurs voyage, il y en a quand même quelques-uns aujourd'hui. Donc, c'est très compliqué d'arriver à
de
les
faire une
rattraper.
Place, quoi. Ouais.
Moi, je pense que tu vois, je dis n'importe quoi, mais le voyage en famille, le voyage en tant que senior, que sais-je. Tu vois,
genre, avec ton chien.
Voilà, ou tu vois, genre un truc comme ça. Je ferai vraiment une niche pour créer une communauté sur cette niche et avoir, tu vois, plus rapidement possible un nom sur cette niche. Parce que je pense que c'est hyper compliqué d'arriver à rattraper des gars comme moi qui sont là depuis 10 ans.
Ouais,
je
ne
dis
ouais.
pas que c'est impossible, tout est possible, mais je pense que c'est assez compliqué.
Non, donc, mais le temps a fait son travail et t'as fidélisé les
exactement,
gens.
Exactement. Donc, je pense que c'est le plus facile. Et en fait, aujourd'hui, il y a plein de gens qui disent que c'est plus compliqué qu'avant. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu vois, par exemple, j'ai gagné 10 000 abonnés avec un réel sur les 72 dernières heures. Et ça, c'était impossible à 10 ans
c'était
de gagner
quoi,
10 000 abonnés. Là, j'ai fait 3 lieux alternatifs au Japon parce qu'il y a Kyoto, il y a des trucs comme ça, etc. C'est un réel qui a fait 3 millions de vues organiques là, qui a quasiment 100 000 likes et qui m'a
c'est
rapporté
dingue.
10 000 abonnés. Ça, il y a 10 ans, gagner 10 000 abonnés, il me fallait 2 ans de taf parce les gens suivaient beaucoup moins facilement, etc., etc. Donc, je ne suis pas trop d'accord avec les gens qui disent que c'est beaucoup plus compliqué qu'avant, hein, etc., etc. Non, en fait, ça n'a jamais été aussi simple. Si tu appliques certaines recettes, évidemment.
Si et si tu bosses bien ton
si
contenu.
Si tu es régulier,
quoi.
Si tu fais des trucs, voilà. Mais ça n'a jamais été aussi simple de gagner des milliers d'abonnés. Après, voilà, il faut réussir à les engager, à les garder sur le long terme et tout. Mais d'un point de vue, créer une communauté, je trouve que tu peux des fois gagner 10, 15 000 abonnés très rapidement, ce qui n'était pas possible avant. Ouais, je ferai une thématique niche sur la thématique générale qui me passionne. Et après avoir fidélisé une communauté, là, je commencerai à aller draguer des offices de tourisme.
Et donc ça, t'as fait ça, t'as dragué?
Au tout début, ouais.
Ouais.
Au tout début, t'envoies
des emails. Tu frappes aux portes, t'envoies des mails en disant j'ai une communauté.
Tu vas au salon de ta thématique, le salon du tourisme, etc. Parce qu'encore une fois, nous, on était tout nouveaux en 2014-2015. Quand t'allais voir des offices et dire salut, je suis blogueur, on te regardait, qu'est-ce que tu fais dans la vie?
Ouais.
C'est pas un métier et tout et tout.
Oui, donc t'as dû un peu évangéliser aussi sur ce que tu faisais et comment... Ça 100%. Pouvait convertir en business pour les offices de tourisme ou les marques.
Leur expliquer que voilà, moi, ma parole, elle a une valeur auprès de ma communauté, que les gens qui me suivent, ils aiment mon univers, ils me font confiance et que ça les inspire à partir à l'aventure. L'année dernière, j'ai bossé avec le Canada, j'ai traversé le Canada en train, sans exagérer. Quasiment chaque jour, il y a quelqu'un qui me tag en story pour me dire je traverse le Canada en train aujourd'hui. C'est
génial.
Des centaines de gens qui ont fait ça. Le retour sur investissement, c'est une évidence qu'il est incroyable, beaucoup plus qu'une pub dans le métro, etc. Enfin, en tout cas, moi, j'en suis convaincu.
Ouais, moi, j'en suis carrément convaincu, mais je me dis, il y a 10 ans, aller voir le Canada et leur dire ça,
C'est vraiment, tu prends ton bâton de pèlerin et vraiment tu vas leur expliquer, et même encore aujourd'hui.
Même encore aujourd'hui, ouais. selon les boîtes, les offices de tourisme, etc., on nous dit t'es bien mignon, mais ce que tu fais, c'est pas un taf. Notamment parce que malheureusement, le terme influenceur, comme on l'appelle, il est souvent résumé à des gens dans la télé-réalité qui font du dropshipping, qui habitent à Dubaï. Mm. Et ça dessert notre cause de ouf, nous les créateurs qui ont une société française, qui, tu vois, genre, qui font bien les choses.
Non, mais un média, toi, t'as créé un média, en fait.
Exact. Mais du coup, comme on essaye de nous desservir assez souvent, malheureusement, on résume notre métier à des trucs pas très positifs. Même aujourd'hui, c'est encore un combat au quotidien, tu vois.
Ah ouais. Malgré ton énorme communauté et l'épreuve.
Ouais.
Et c'est quoi, toi, ta plateforme préférée ?
C'est un peu compliqué parce que chaque plateforme est vraiment hyper intéressante. Mais je pense qu'Instagram a quand même le mérite de pouvoir autant partager le côté photo statique que de la story, que du reel. Donc des vidéos où tu peux un peu raconter des histoires. Donc j'aime bien Instagram en ce sens parce que ça permet un peu de regrouper pas mal de formats de contenu. Parce que moi, je suis autant... moi, j'aime beaucoup raconter des histoires en vidéo, mais j'aime autant aussi parfois juste partager 2 ou 3 clichés. Et pas forcément, tu vois, chercher à tout prix à le raconter en histoire. Quand j'étais au Japon, j'ai vu le plus vieux cimetière du Japon qui a plus de 1000 ans. Et j'ai pris des photos là-bas qui me paraissaient être intéressantes, de point de vue atmosphère, etc. etc. Ben ça, j'ai pu le partager sur Instagram. Ce qui est plus compliqué sur TikTok, tu peux partager des photos, mais l'ADN, c'est quand même beaucoup plus vidéo.
Ouais.
Donc Instagram, je trouve que c'est quand même, pour ça, c'est pas mal.
Tu arrives aujourd'hui, malgré ton énorme communauté, à poster comme ça, juste dans la journée, sans réfléchir, un truc qui te fait plaisir ?
Ouais,
ou tout est réfléchi ?
Non, ça peut arriver, notamment les stories et tout, je le partage un peu au quotidien. Et... Non, je trouve ça assez important de quand même de ne pas tout calculer tout le temps et de ne pas toujours me dire « Ok, il faut que je partage ça à tel moment, telle heure et tout. » D'ailleurs, pour l'anecdote, je crois que la photo la plus likée, on va dire, de tous les temps de mon compte Instagram, c'est une photo que j'ai postée un jour à 23h à l'arrache parce que j'avais gagné un trophée dans le domaine du tourisme. J'avais fait un selfie sur scène avec les gens qui s'étaient levés et tout et tout. Et elle avait fait 40 000 likes, la photo, et c'est une photo dégueulasse en soi.
Mais elle voulait dire plein de choses.
Voilà.
Ouais.
Donc, c'est pas forcément les photos parfaites qui plaisent aujourd'hui, de moins en moins d'ailleurs.
Ouais.
Parce qu'en fait, il y a tellement de parfaits. Il y a tellement des beaux couchers de soleil, des gens main dans la main, en couple et tout, tu vois, genre sur une plage paradisiaque aux Maldives ou que sais-je, que c'est pas forcément ça qui va marcher.
Ouais, c'est plus l'authenticité, le moment, ce que
exact.
Tu disais.
Mais par contre, humaniser, c'est pas juste partager une photo dégueu pour partager une photo dégueu. Il faut raconter une histoire.
Le texte vaut autant que l'image, tu penses.
Exact. Il faut raconter une histoire plus que jamais.
Ouais.
Moi, j'aime beaucoup les belles images. Donc, voilà, mais j'essaie de trouver le juste milieu entre bien faire la photo, mais faire la belle photo qui sera là pour raconter quelque chose, pas juste pour faire une belle photo.
Et tu réponds à tous les DM ? C'est toi qui réponds ?
Ouais, c'est moi qui réponds. Ouais. C'est beaucoup de temps, mais peut-être pas tous, mais franchement, je fais au max pour répondre aux gens sur les messages, etc., etc.
T'es tout le temps avec ton téléphone dans la main ?
Ouais, c'est une des parties du métier, c'est que t'es quand même souvent connecté. Moi, je suis un enfant d'Internet, donc ça me va très bien. Moi, je viens d'un lieu-dit de 200 habitants, comme je le disais. Et ce lieu-dit de 200 habitants, si j'avais pas eu Internet quand j'étais jeune, franchement, je me serais fait chier comme un rat mort. Internet m'a sauvé un peu là-dessus. Genre, j'ai appris plein de trucs. À 12-13 ans, j'étais déjà sur Photoshop, sur Illustrator, à apprendre à faire des fonds d'écran ou à juste m'occuper. Et moi, je suis un amoureux d'Internet, donc ça ne me dérange pas. Mais j'imagine qu'il y a des gens que ça pourrait déranger. Mais moi, je trouve qu'Internet, c'est incroyable, c'est un outil fou. On a trop de chance d'avoir Internet.
Et ton quotidien, alors, il ressemble à quoi aujourd'hui ?
Il évolue tout le temps, en fait. C'est compliqué. Mon quotidien d'il y a 2 ans ne sera pas le même que mon quotidien de dans 6 mois, par exemple. Et d'ailleurs, ça dépend aussi de si je suis en voyage ou pas. Mais en tout cas, quand je ne suis pas en voyage, ben, ça va être édité tout le contenu que j'ai pu prendre en voyage, justement. Quand tu pars 1 mois au Japon, il y a plein de contenu que... T'as pas le temps de retoucher pendant que t'es au Japon parce que tu veux faire une vidéo YouTube ou que sais-je. Donc, il va y avoir ça. Il va y avoir avancer sur mes prochains projets, répondre aux partenaires, répondre aux messages privés. Je fais aussi des événements qui s'appellent le Verre du Voyageur. Il y en a un la semaine prochaine. C'est 1000 personnes qui viennent dans un lieu que je privatise pour l'occasion. Faut trouver les lieux. En fait, mon métier, il n'y a pas un jour qui est le même. C'est ça qui est cool d'ailleurs. Moi qui aime bien toucher à tout. C'est un métier où au final tu as toujours des choses diverses et variées, des nouvelles plateformes, TikTok depuis quelques années, mais tu vois, enfin genre, c'est un métier qui, il n'y a pas un quotidien précis, c'est ça que j'aime beaucoup.
T'es combien de temps en voyage sur l'année, tu sais ?
Au moins 6 mois par an, je pense.
Au moins 6 mois par an.
Ouais.
Et quand tu voyages, t'es seul ou accompagné ?
On est souvent 2. En tout cas, s'il y a du YouTube, on est 2. S'il y a, entre guillemets, que du Instagram ou du TikTok et tout, je peux partir tout seul. Mais souvent, on est 2 quand même. Ce qui n'est pas énorme.
Tu préfères quoi, toi ?
Moi, j'aime bien voyager seul, comme accompagné. Enfin, les deux sont intéressants. Mais c'est vrai que comme je voyage pas forcément pour moi uniquement, mais pour partager des aventures, tout seul, ça peut être un peu compliqué parfois. Donc, je trouve que deux, c'est bien parce que tu peux être sûr de mieux capter les trucs avec des regards différents et une vision qui n'est pas forcément tout le temps la même. Et je trouve que c'est mieux pour avoir un récit le plus complet possible.
Ouais.
Mais après, voilà, si tu pars en voyage en solo pour toi, c'est aussi intéressant. Mais c'est rarement pour moi que je pars, tu vois.
Ah oui, est-ce que c'est Bruno aussi... Maltor part en vacances ?
Ouais, mais quand je pars en vacances, je ne partage pas de contenu.
Il y a des fois où tu débranches dans l'année ou vraiment tu ne partages rien ?
Ouais, bien sûr. Il n'y a pas si
tu
longtemps.
Tu coupes tout ?
Ouais, en tout cas, je ne partage pas de contenu sur l'endroit où je suis. Je
D'accord,
suis allé,
oui, ok.
À Amsterdam, il n'y a pas si longtemps, voir des amis qui habitent là-bas. Je n'ai rien partagé sur Amsterdam et j'ai passé une petite semaine, 10 jours. Et tu vois, j'ai rien partagé sur la capitale des Pays-Bas.
Bien.
Ouais, j'aime bien aussi. Tiens, en tout cas, je me dis, c'est bien d'avoir des moments pour soi, pas forcément toujours chercher à capter des instants, etc. Mais après, quand même souvent, moi qui aime créer et qui aime partager des trucs, ça peut être aussi frustrant. Parce que quand c'est ton ADN depuis plus de 10 ans, ça fait partie de moi en réalité. Mmh, tu vois.
Ouais.
Et j'aime beaucoup créer. Donc des fois, je me dis, même quand je pars pour moi, je crée quand même des trucs. Je sors quand même mon drone, je fais quand même des belles images parce que c'est pour moi
que
je fais
ça.
Et parce que ça fait partie de mon ADN aujourd'hui.
Qu'est-ce qui est pénible alors dans ce métier ? Parce que ça, franchement, quand on t'écoute, ça a l'air,
en fait,
chouette.
Non, il y a des trucs qui sont... Il n'y a aucun métier qui est parfait. Et d'ailleurs, c'est difficile pour les... Il y a plein de créateurs qui font des burn-out. Tu sais, des youtubeurs et tout, parce que on a un métier qui est considéré comme parfait et on n'a pas le droit de se plaindre souvent. Parce que les gens, comme ils ne comprennent pas notre quotidien, ils se disent « mais ça va, tu voyages tout le temps, c'est parfait ». Mais en fait, des fois, c'est vrai que ça peut être dur d'un point de vue horaire. Moi, ça va que j'ai beaucoup d'énergie, on va dire, mais ouais, je pense que tu dois te lever à 6h du mat et te coucher à minuit quasiment tous les jours quand tu es en voyage. Mmh. Ce n'est pas un voyage où tu vas tester un hôtel, le jacuzzi ou je ne sais pas quoi. C'est tu pars pour créer et pour faire le travail d'une équipe normalement de 5 à 10 personnes.
Ouais.
Nous, on part à deux parce qu'on aime bien être discret, on aime bien prendre notre temps et tout, mais on veut raconter les histoires de notre façon, mais on taffe, mais comme jamais. Et c'est hyper intense comme métier. Ça, c'est quand même la première chose. Et c'est aussi un métier où tu es beaucoup connecté. Donc, il y a des gens qui pourraient ne pas accepter ça, te dire que tu es souvent sur ton téléphone ou sur les réseaux, et tu vois, il y a ça. Mais je pense que c'est aussi l'exigence de la régularité qui fait que c'est compliqué. Comme je le disais, moi, je sors une vidéo par semaine sur YouTube depuis 5 ans. Alors, tu vois, c'est quelque chose que je m'impose, ça pourrait être moins. Mais ça n'empêche que si tu veux progresser, continuer à fidéliser, etc., il faut être régulier. Donc, tu as quand même une obligation de créer du contenu.
Ouais, ça s'arrête jamais.
Qui est intense. Aucun métier n'est parfait. Mais après, moi,
tu
je trouve
que
qu'il y a plus de
ça.
Plus que de moins. Mais...
Tu crois que tu vas faire ça toute ta vie ?
Je sais pas. Franchement, je n'ai pas la moindre idée. C'est un métier que j'adore. Après, peut-être que dans 10 ans, je me dirais j'ai fait le tour ou quoi. Mais c'est un métier qui évolue tellement avec le temps que je trouve qu'il se renouvelle perpétuellement. Et donc, en ce sens, je ne me vois pas faire autre chose aujourd'hui. Mmh. En fait, c'est un métier qui te donne des possibilités infinies. Par exemple, je ne sais pas, moi, je fais des conférences de temps en temps. J'ai sorti un jeu de société qui s'est vendu à plus de 20 000 exemplaires. Tu vois, j'ai fait une marque de vêtements à un moment. Enfin, tu sais, tu peux faire plein de trucs. Et c'est ça qui est assez incroyable. Et je me vois difficilement faire autre chose en ce moment. Je me vois difficilement retourner dans un bureau classique avec un... Tu vois, moi, j'aime bien créer et me dire que je peux apporter une touche qui n'est que la mienne au final. Parce que c'est difficile d'avoir mon point de vue exact, ma façon de voir les choses exactement, etc. etc. Mais ça fait plus de 10 ans que je le fais. Ben, voilà, c'est 2024, ça va faire 10 ans que je le fais en tant que métier. Donc peut-être qu'un jour, j'arrêterai. Mais pour l'instant, je ne me vois pas trop faire autre chose.
Tu gagnes bien ta vie ou pas ?
Ouais, je gagne bien ma vie. Ouais.
Comment
Après,
tu gagnes ta vie alors ?
Ça n'a jamais été le but.
Non,
de
c'est
base.
Pas le but évidemment, mais c'est toujours
début,
agréable.
Ouais, bien sûr. Bah, encore une fois, c'est agréable parce que c'est pas le plus agréable. Le plus agréable, c'est de me lever avec le sourire parce que je vis de ma passion. Tu vois, c'est ça le plus agréable.
Ouais,
ça a toujours été le moteur de base. En 2014, quand je me suis mis à 100%, je gagnais même pas un SMIC. Mais c'était agréable parce que je me levais avec le sourire. Et tu vois, j'ai refusé un CDI plutôt bien rémunéré, plutôt bien payé chez TF1. Mieux payé que mon taf de créateur de contenu. Mais ça n'a jamais été l'objectif de base. Après, comment je gagne ma vie ? J'ai fait une vidéo YouTube là-dessus. Parce que je trouvais ça assez important d'expliquer aux gens comment tu t'en sors.
Carrément.
Il y a, on va dire, 4 piliers principaux. Un, tu vas avoir l'affiliation. Par exemple, je ne sais pas si demain, tu pars quelques semaines à New York pour explorer la grosse pomme. Tu vas vouloir visiter l'Empire State Building, le Rockefeller Center, etc. etc. Mm-hmm. Tu peux prendre un truc qui s'appelle le City Pass, qui te fait gagner du temps et surtout qui te fait visiter tous les lieux principaux que tous les touristes veulent visiter. Et ben, si tu prends le City Pass, qui va dire n'importe quoi, qui coûte $150, moi, je vais gagner une commission parce que tu as cliqué sur mon lien qui te permet d'acheter ce City Pass. Moi, c'est un vrai conseil que je donne. Je donne que des vrais conseils. Je ne donnerai jamais un conseil juste pour gagner 1 ou 2 euros. Parce que sur du long terme, je pense que ce n'est pas une bonne idée, quoi qu'il arrive, que de donner des faux... Mais ça, j'en parle sur mon blog, etc., etc. Ça va me rapporter quelques euros à chaque fois que quelqu'un va prendre un City Pass en passant par mes liens.
Okay.
Ça peut marcher aussi pour les hôtels, etc., etc. Là où je séjourne et je trouve que c'est un bon lieu, j'en parle et les gens peuvent y passer quelques nuits et ça me rapporte un peu d'argent.
Et en plus, c'est win-win parce que finalement, tu parles que de choses que tu as aimées et tu as intérêt à ce que les gens achètent aussi.
Exactement. Donc, tu as ça, tu as les collaborations avec les marques, les offices de tourisme, etc., etc. Tu as les verres du voyageur dont je parlais juste avant. Et après, tu as les autres projets qui vont être les conférences, qui vont être mon jeu de société que j'avais fait. Enfin, tu sais, des trucs un peu divers et variés liés à la création de contenu, mais de façon indirecte, on va dire.
D'accord.
En fait, et du coup, j'ai quatre piliers divers.
Et quand tu dis collaboration avec les marques, il y a quand même deux trucs. En gros, il y a les marques du tourisme, ce dont on parlait avant, donc les offices du tourisme, etc. Mmh. Donc, par exemple, moi, je suis l'office du tourisme d'Albanie.
Ouais.
Et je viens de voir pour te dire, il faudrait vraiment qu'on mette notre desti en avant pour cet été.
Ouais.
Tiens, tu as un budget, tu pars et tu me fais du contenu, etc.
Ouais, en gros, c'est ça, ouais. Et après, bah, c'est à moi de voir, déjà, est-ce que les destinations m'intéressent ? Est-ce que j'y serais allé naturellement quoi qu'il arrive?
Ouais.
90% des cas, c'est oui. Parce que je suis très curieux et j'ai toujours envie d'en découvrir plus sur les cultures, notre planète, etc. etc. Et après, c'est moi qui regarde en fonction de ma ligne édito. Qu'est-ce que je peux visiter? Qu'est-ce qui me semble pertinent? Enfin, tu vois, je ne vais pas à un endroit où on me fait tout un programme, on m'impose de parler de ça ou de ça. C'est vraiment moi en fonction de mon univers qui me
qui
dit
construit.
Ok, voilà, c'est moi qui construis chaque étape de mon itinéraire pour que j'en parle avec le plus de naturel et d'envie spontanée, je dirais, de partager mes aventures.
Et si t'aimes pas, t'en parles ou pas ?
Ouais, ça m'est déjà arrivé. C'est très rare, honnêtement, parce que je suis quelqu'un plutôt positif, etc. Mais en 2015 ou 2016, je suis allé en Malaisie, pour l'anecdote. Et j'étais dans ce magnifique pays, dans une région qui s'appelle Terengganu. Et en gros, c'était invité par la Malaisie, rémunéré, etc. Tu vois, donc voilà, c'était une mission, quoi. Et au final, il y a un endroit où je suis allé, où j'étais hyper curieux. C'était un refuge d'animaux, notamment d'éléphants. Moi, je suis végétarien depuis 8 ans, etc., etc. Donc, j'ai quand même un certain attrait pour ce sujet-là de la cause, on va dire, animale. C'est très Miss France dit comme ça, mais voilà. Et concrètement, j'arrive dans ce refuge qui était nouveau. Donc, il n'y avait pas trop d'avis, tu vois, sur les réseaux. D'ailleurs, les réseaux en 2016, ce n'était pas la même chose qu'aujourd'hui non plus, mais voilà. Et en fait, c'était horrible. Genre, tu arrives dans une sorte de parking d'hypermarché au milieu de la jungle. C'est quand même très bizarre. Les éléphants étaient attachés. Tu pouvais les laver, monter dessus, il y avait des spectacles et tout. Et en gros, moi, à la fin, je devais faire un article sur mon voyage. Si tu vas sur mon blog qui s'appelle Votre Tour du Monde, tu tapes Malaisie, tu peux retrouver cet article. Et en gros, je te dis tout ce que j'ai aimé. Mais là, c'était tellement quelque chose qui m'avait choqué en négatif. J'avais quand même limite les larmes aux yeux de rage d'avoir vu tout ça, que j'en ai parlé aussi. J'ai dit, n'allez surtout pas là-bas. C'est un enfer. Ça ne devrait pas exister, tu vois, à l'époque, en 2016, un truc comme ça. Donc, c'est quelque chose que j'ai fait.
Il y a des trucs que tu refuses ?
Ouais, 90% des trucs, je refuse. Ouais, bien sûr. Mais c'est ça aussi qui est ma chance, c'est qu'aujourd'hui, j'ai réussi, du jour au lendemain, comme on dit, à me créer un nom. Bien évidemment, c'est 10 ans de taf, mais du coup, on me sollicite énormément.
Ouais.
Et c'est une chance de pouvoir être sollicité. Ça me permet de pouvoir dire non à 90% des demandes entrantes de collaboration. Et je ne garde que les trucs dont je me dis, j'aurais pu en parler naturellement, spontanément, sans qu'il y ait forcément une rémunération ou quoi derrière. Et c'est ça qui fait que les gens, je pense de façon générale, se disent pas que je fais beaucoup de collaborations ou quoi. En réalité, j'en fais parce que c'est nécessaire. Mais du coup, c'est une chance de pouvoir me dire je refuse 90% des collabs.
Ouais, ça fait pas vendu, quoi.
Je pense. Faudrait demander aux gens qui me suivent.
Mais... C'est qui, toi, les créateurs de contenu qui t'inspirent ?
des créateurs de contenu qui m'inspirent. Bah, alors c'est marrant parce que moi, au tout début, les gens qui m'inspiraient, ça pouvait être des Antoine de Maximi avec J'irai dormir chez vous, ou des Yann Arthus Bertrand. Et d'ailleurs, c'est une des chances de mon métier, c'est qu'en fait, aujourd'hui, j'ai eu la chance, par exemple, de faire une vidéo avec Yann Arthus Bertrand chez lui pour mes
trop
réseaux.
Bien.
C'est quand même un truc de
trop
ouf.
Trop bien.
C'est ça qui est aussi un des gros atouts de mon métier. Après, des créateurs qui m'inspirent, il y en a pas mal dans le monde anglophone. Par exemple, il y a Johnny Harris, c'est un YouTuber qui a un style hyper journalistique, mais reportage intéressant, etc. Mais quand même très humain, évidemment. Il fait des belles cartes, un peu en mode géopolitique, hyper intéressant, qui parle de plein de sujets divers et variés. T'as Casey Neistat, je ne sais pas si ça vous parle. C'est un YouTuber américain aussi, pareil, qui a un style très brut, sa façon, un style de montage qui a beaucoup inspiré plein de créateurs autour du monde. C'est pas mal les YouTubers qui m'inspirent. Parce que je trouve que YouTube, c'est quand même le nec plus ultra de la création du contenu parce que c'est le plus exigeant. J'ai envie de dire, moi aujourd'hui, si j'étais que sur Instagram, ça serait un peu des vacances. Parce que je trouve qu'Instagram, c'est plutôt facile. Tu fais quelques stories, tu fais un reel. Je dis pas que c'est rien, mais comparé à YouTube, tout le temps de travail, faire des voix off, faire du montage, trouver les bonnes musiques bien associées à l'émotion que tu veux faire partager, mettre un drone shot plutôt qu'un plan au sol, savoir quelle facecam, donc intervention à la caméra, tu veux mettre à quel instant, etc., etc. C'est 100 fois plus de taf.
Mais c'est un vrai taf de réalisateur quand même.
Bah, c'est réal, c'est monteur, c'est des dizaines de choses. Et donc du coup, moi, en ce sens, c'est plus les YouTubers qui m'inspirent que, entre guillemets, je mets bien, je respecte tous les secteurs de mon univers,
ouais,
mais
ouais.
Que, entre guillemets, juste quelqu'un qui fait une story Instagram. Donc,
oui, surtout quand tu es dans un endroit très beau ou très inspirant, finalement, la story... Elle amène l'émotion par elle-même.
Ouais.
Quoi. Et quand il n'y a pas beaucoup de boulot à faire derrière.
Exactement. Tandis que quand tu fais une vidéo 15 minutes sur YouTube pour présenter une destination, tu prends plus le temps de raconter « Ok, là, je suis dans le nord du Japon. La superficie est équivalente à telle région française pour donner un ordre de grandeur. Il y a tant d'habitants, etc. etc. » Enfin, tu vois, genre, je trouve que c'est un travail un peu plus poussé. Et en ce sens, j'avoue que je suis plus intéressé par les créateurs de contenu sur YouTube.
Tu as fait des formations, toi ?
Pas spécialement. Non.
Ni en photo, ni en montage, ni en rien.
Tout appris sur le tas. Mais c'est la magie d'Internet, encore une fois. Tu apprends tout sur Internet. Après, bien évidemment, tu peux faire des formations. Mais je trouve qu'avec YouTube, aujourd'hui, tu peux tout apprendre. Tout. La photo, la vidéo, le montage, tout s'apprend. Ça peut être un peu galère, mais tout s'apprend.
Tu trouves.
Ah ouais.
Et qu'est-ce que tu défends ? Alors, tu disais ma manière de voyager, c'est quoi, toi, ta manière de voyager ? Celle que tu défends ?
Donc, moi, j'aime cette côté vision du voyage où tu peux vraiment t'imprégner du plus possible d'une destination. J'avoue que j'ai jamais trop mis en avant le côté New York pour 48 heures ou ouais. Que sais-je. Et plus le temps avance et plus je me dis, j'essaye de mettre en avant une vision du voyage qui est la moins pire possible, peut-être. Alors, j'estime pas
parler.
Du tout être parfait. Je reviens du Japon, par exemple, donc j'ai dû prendre l'avion, typiquement, mais j'essaye, quand je prends l'avion, de rester le plus longtemps possible sur place. Et aussi, j'essaye de rester le plus possible au sol quand c'est possible. Par exemple, je suis allé en Suède, à Göteborg, uniquement en train l'année dernière. Je suis allé en Sicile en train l'année dernière. Je suis allé aux îles Lofoten en train. Là, je reviens du Maroc où je suis allé en train. Enfin, j'essaye autant que possible de rester au sol et d'inspirer les gens à faire de même. Et les contenus que je crée, c'est aussi un peu en ce sens. J'ai un format sur YouTube qui s'appelle « Vivre à ». J'ai fait « Vivre à Tokyo » il n'y a pas longtemps, avec un mec qui habite à Tokyo depuis plus de 10 ans. Et je me dis que ça peut inspirer les gens à aller vivre ailleurs, plutôt que juste partir 3 jours, encore une fois, quelque part. Et puis après, c'est plein de trucs tout bêtes, mais c'est essayer d'être le plus respectueux, évidemment, de là où tu vas, se lever tôt, essayer, tu vois, d'être un peu... je sais pas, prôner un tourisme un peu alternatif, encore une fois, tout en acceptant le fait de ne pas être parfait, loin de là.
On a le droit.
Ouais, personne n'est parfait.
Et en dehors du côté green, qu'est-ce que t'aimes dans le train ?
Le train, en fait, c'est plein de trucs. Moi, j'avoue que je faisais des interrails. Tu fais 3 fois interrail. Interrail, c'est un passe.
C'est extraordinaire, quand même.
Voilà. Voyager un peu partout en Europe. Meilleur continent, d'ailleurs, l'Europe, c'est incroyable. Mais donc, du coup, c'est le fait de se dire que tu remets le mode de transport au cœur de l'aventure. Le train, c'est se dire que le train de nuit, par exemple, c'est se dire que tu peux t'endormir dans une ville et te réveiller dans une autre au bout de l'Europe, par exemple, parce qu'on parle de l'Europe. Et ça, je trouve que c'est quand même hyper poétique, que c'est hyper inspirant et que ça te permet de remettre le mode de transport en tant que tel au cœur de l'aventure et pas de juste le voir comme un moyen de se déplacer d'un point A à un point B.
Une téléportation, quoi.
Il y a une aventure, il y aura peut-être des rencontres avec tes voisins de cabine ou que sais-je. Et ça, je trouve que c'est assez magique. Donc, il y a ça qui est cool. notamment.
C'est quoi le voyage en train le plus dingue que tu as fait ?
Je pense que c'est quand même la traversée du Canada en train, donc avec le Canadien. Alors, une bonne partie du Canada, parce que le Canada, c'est le deuxième plus grand pays du monde. Donc, tu pars pas de l'extrémité est jusqu'à l'extrémité ouest, mais tu parles quand même de Toronto, qui est la plus grosse mégalopole canadienne, avec environ 5-6 millions d'habitants, si je dis pas de bêtises. Donc, Toronto, qui est à l'est du pays. Et tu vas jusque Vancouver, donc qui est tout à l'ouest pour le coup. Et c'est environ 100 heures de train. Donc, ça fait 4 jours de train. Évidemment, tu peux t'arrêter si tu veux t'arrêter. Mais si tu t'arrêtes, t'as un train qui s'appelle le Canadien, donc qui passe que tous les 3 jours.
Donc ça veut dire tu t'arrêtes 3 jours.
Voilà, si tu t'arrêtes, tu t'arrêtes 3 jours. Tu peux pas non, enfin, faut faire des choix, quoi. Mais donc du coup, c'est vrai que c'est un train qui est bien réfléchi pour que ça soit une expérience incroyable. T'as une voiture panoramique parce que le train il roule que à 50 ou 60 km/h en moyenne. Donc ça veut dire que ça va pas si vite. Mais donc du coup, la voiture panoramique c'est un truc un peu surélevé où tu auras vraiment une vue sur tous les environs et c'est quand même assez incroyable. Tu as un wagon-restaurant où, pareil, la nourriture est incroyable, c'est tout réfléchi de A à Z pour que cette expérience soit inoubliable. Et c'est aussi le deuxième plus long trajet de train au monde, en continu en tout cas, juste après le Transsibérien. C'est quand même 100 heures, quoi. Donc, c'est-à-dire que
c'est génial.
Ça devient un peu ton quotidien de te déplacer, de vivre l'expérience. T'as pas de wifi, donc c'était un peu vraiment connecté à l'aventure en tant que telle. Tu prends un bouquin, tu vas lire, t'as des jeux de société, t'as des gens de partout qui vivent cette expérience avec toi. Donc c'est quand même vraiment cool à vivre, je trouve.
C'est génial. Et c'était quoi le genre de personnes qui allaient dans le train ?
Tout. Il y avait autant des retraités que des gens en famille, que des gens un peu jeunes, que des vrais passionnés du train qui faisaient ça parce qu'ils connaissaient le modèle de locomotive qui nous tractait et tout. Enfin, il y avait tout et n'importe quoi. C'était quand même plutôt âgé, je dirais, au moment où je l'ai fait. La moyenne d'âge devait être à 40 ou 50 ans, mais...
Eh, doucement, quand même. Âgé, moi, j'imaginais mes grands-parents, tu vois.
Non, mais
je comprends. Ouais. Genre, mais des gens avec des enfants, t'as vu des gens avec des enfants ?
T'avais des familles et tout, donc voilà, t'avais un peu de tout. Mais c'est vrai que c'était pas forcément des gens qui avaient la vingtaine ou quoi.
Ouais. Pas des backpackers, etc. Pas les gens que t'es habitué à croiser quand tu...
Tu peux croiser un peu, ouais, exactement.
Ça coûte cher, peut-être ?
C'est pas... Moi, je trouve que c'est pas si cher, entre guillemets. Évidemment, ça va dépendre de la période à laquelle tu vas partir et tout. Mais moi, par exemple, j'avais une cabine pour une personne et tout. De mémoire, c'était aux alentours de 1 000 €. Mais du coup, tu as tous les repas inclus. Petit-déj, déj, dîner, matin, midi et soir. Et surtout, en fait, ça remplace 4 nuits d'hôtel aussi, en fait.
Oui, c'est exactement.
En fait,
d'accord. Okay.
Bien sûr que c'est pas.
Et c'est une expérience dingue, quoi.
Mais c'est l'expérience d'une vie. Oui, c'est à peu près 1 000 balles. Mais en fait, si tu te dis que tu payes pas d'hôtel, et c'est une belle. C'est quand même un hôtel roulant, donc c'est incroyable. Tu as le resto matin, midi et soir, etc., etc. Je trouve que c'est honnête. Je dis pas que c'est pas cher, mais je trouve que c'est honnête. C'est, voilà. Après, évidemment, tu as des trains qui sont moins chers et tout pour voyager en Europe ou. Au fin fond du monde, mais c'est pas aussi fou. Encore une fois, là, tu as une voiture panoramique et tout. Enfin, tu as même, pour l'anecdote, Via Rail, donc SNCF canadien, ils font passer des castings à des chanteurs qui se voient offrir leurs billets s'ils ont un niveau qui est cool, même des guitaristes, etc., etc. Et ces gens-là, ils vont jouer dans la voiture panoramique quelques heures par jour en échange d'un billet. Ça veut quand même dire que, tu vois, l'expérience est poussée jusqu'au
bout. C'est extra.
Et tu vois, moi, je trouve que ce genre d'expérience, oui, c'est 1 000 balles, donc c'est un ticket, on va pas dire le contraire, mais t'en parleras encore dans 50 ans. La preuve en est, j'en parle encore un an après. Et moi, c'est ce genre de truc qui me fait me dire que le voyage peut être incroyable et que parfois, il faut savoir payer. C'est que, il y a des expériences que tu vas vivre et que tu n'oublieras jamais. Et c'est le genre d'expérience que tu n'oublieras jamais, selon moi.
C'est sûr. Et le Japon en train ?
Japon en train, incroyable aussi. Après, tu vois, le Japon en train de nuit que j'ai pu expérimenter, donc c'est près de 1000 km, il relie Tokyo, quand même la plus grosse mégalopole du monde avec 37 millions d'habitants. 37 millions d'habitants, c'est les 2/3 de la France dans une ville, une mégalopole, qui relie au sud du pays. Là, c'est plus un train, qui est, même pour les vrais gens, parce que là, tu vois, dans le Canadien, c'était un train touristique quand même.
C'est une expérience touristique, quoi.
Il n'y a pas des Canadiens qui vont aller de Toronto à Vancouver avec ce train, très peu en tout cas, notamment pour le taf ou quoi. Là, c'est un vrai moyen de transport pour les locaux, etc. Donc, c'est différent. Il n'y a pas forcément de voitures panoramiques, il n'y a pas de wagon-restaurant, etc., etc. Mais c'est aussi une expérience incroyable parce que tu pars de Tokyo avec les buildings, tu vois, les lumières incessantes de cette ville. Tu traverses les campagnes, des petites villes un peu perdues au fin fond du Japon. Donc, ça reste une expérience incroyable en soi. Pour le coup, c'est moins cher. Ma cabine, elle était à 150 € environ.
Ah ouais.
encore une fois, quand tu te dis que tu économises une nuit d'hôtel, que tu arrives directement sur place pour enchaîner, c'est pas cher. Tu vois, les gens souvent ils disent ouais, mais c'est un budget et tout. Je trouve que le train de nuit, c'est plutôt un bon plan en ce sens. Mmh. J'ai aussi été à Vienne, capitale de l'Autriche. En train de nuit, c'est pareil, ça peut être, oui, 100, 150 euros, mais en réalité, tu arrives à 7h du mat à Vienne, tu es prêt à enchaîner tout de suite avec ta journée, tu arrives dans le centre-ville, tu n'as pas besoin de prendre un bus, un tramway ou un taxi
ouais,
à 40 balles.
Parce que tu avais avec les low-cost d'avion qui, ouais. où tu atterrissais hyper loin.
Tu atterris au bout du monde et au final, tu perds 3 heures, etc., etc. Je trouve que c'est un bon plan, le train de nuit. Et en plus, encore une fois, c'est un peu le truc poétique ou qui te ramène à, je sais pas, tes rêves de gamin, tout ça.
Carrément.
Moi, j'aime beaucoup.
C'est quoi le train que tu rêverais de prendre ?
Le train que je rêverais de prendre, il y en a plusieurs, mais évidemment le transsibérien, quand même, une fois dans ma vie, j'aimerais beaucoup parce que c'est le plus long train au monde. Alors en ce moment, c'est un peu compliqué pour plein de raisons, mais notamment géopolitique. Mais j'espère le jour quand même le faire un jour quand même dans ma vie. Et sinon, aux US, tu as le Zephyr, si je ne dis pas de bêtises, qui part de Chicago jusqu'à San Francisco ou LA, j'ai un doute. Mais en tout cas, voilà, qui passe par plein de paysages incroyables dans le nord-ouest des US. Et il paraît qu'il est vraiment sublime.
Oh, je vais regarder aussi.
Faire ça. C'est le Zephyr, ouais.
Et la Sicile en train, moi, j'ai un souvenir de quelqu'un qui me l'a raconté. Le train va sur un bateau, non ?
Exactement. C'est un bateau qui est fait pour, comment dire, un bateau rail, quoi, on va dire. Tu as des rails sur le bateau, on va l'appeler comme ça. Et ton train se met directement sur le bateau. Je crois qu'il n'y a que deux endroits dans le monde où c'est possible. En Sicile et entre Hambourg et la Suède. Donc, c'est une expérience en soi et c'est ça qui est cool avec ce train de nuit. Autant, il y a des fois des trains que j'ai pu prendre, par exemple, pour aller jusqu'en Suède, où c'est plus le côté, comment dire, tu prends un TGV, puis un autre, et l'expérience en soi est pas
magique,
comme le ouais. canadien, etc. Autant là, la Sicile, ça restait magique parce que tu as ce côté-là, tu te réveilles, tu es sur un bras de la Méditerranée, et en fait, ton train est sur un bateau, et ce même bateau t'amène sur la Sicile, et après, on va remettre le train sur les rails.
Donc après, il replug ouais. les wagons.
Exactement.
Et tu pars en Sicile.
Et en vrai, ça, c'est assez incroyable à vivre. Donc pour ça, c'est vrai qu'il y a plein de petites expériences que tu peux vivre. Moi, je me réveille effectivement une fois, comme je disais, à 6h du mat, et je comprends qu'on arrive sur le bateau, et là, je sors, j'arrive sur le quai, et tu vois que t'es vraiment en train de te lever avec le soleil. Et tu prends un café et tu te dis, c'est quand même assez marrant comme expérience à vivre. Et pareil, ça rejoint ce qu'on se disait parfois, c'est que tu vis aussi des expériences, des voyages pour ça, pour t'en souvenir dans 50 ans. Et le fait de prendre ce train de nuit qui t'emmène jusqu'en Sicile sur un bateau-train, ça, c'est assez unique à vivre.
T'as fait des rencontres de dingue en train ?
Ben, notamment dans le Canadien. Parce que le Canadien, comme t'as le wagon-restaurant, en fait, quand t'arrives, il y a un serveur qui te dit, OK, tu vas te mettre à telle table. Et en fait, ben, y a des gens assis, quoi. Et donc, en fait, tu rencontres des fois deux potes qui font ce voyage entre eux, un couple, tu vois, etc., etc. Et ça, c'est assez cool.
C'est table d'hôte, quoi. Quand
ouais,
t'es tout seul, j'imagine.
Peu.
Peut-être si t'es un groupe, peut-être t'as ta table attitrée et toi, t'étais table d'hôte.
Ouais, et tous les jours, tous les repas, ça change. Donc, tu rencontres un peu tout le monde et ça, c'est cool. Et c'est effectivement, bien. Dans la voiture panoramique aussi, tu as quand même le truc du... comme les gens sont tous un peu posés, contemplent autour d'eux, il y a forcément des échanges qui se font.
Les rencontres, quoi.
Ouais.
Trop bien. Et en France, tu voyages que en train, alors ?
En France, je fais tout pour rester le plus possible au sol. Ouais. Par exemple, j'avouerais que faire un Paris-Lyon en avion, pour moi, c'est un non-sens aujourd'hui. Ça ne devrait plus exister. Malheureusement, ça existe encore.
Ouais.
Donc, bah,
finalement,
voilà.
ouais.
Même le Paris-Marseille, tu vois, il y a des trucs comme ça. Je trouve ça bête, en fait. Genre, OK, c'est le gros problème aussi, c'est le prix. Et il y a vraiment des décisions gouvernementales qui nous dépassent à prendre, parce que le kérosène... sur l'avion depuis les accords de Chicago en 1950, si je ne dis pas de bêtises. Mais en fait, tu vois, ils ont plein d'exonérations, etc. etc. Mais et il faudrait qu'on taxe plus l'avion, notamment pour des trajets qui sont des non-sens écologiques. Je ne dis pas que tu peux aller en train à New York ou quoi, mais tu vois, genre pour du Paris-Lyon, Paris-Marseille, ça devrait, Paris-Nantes, ça ne devrait plus exister. On devrait prendre des décisions fortes d'un point de vue gouvernemental. Ça nous dépasse un petit peu. Parce que oui, l'avion est considéré comme moins cher, mais c'est juste qu'il y a beaucoup plus d'exonérations que le train, malheureusement.
Ouais.
Mais ouais, je fais tout pour rester au sol en France. Ça fait quelques temps que je n'ai pas pris l'avion, pour le coup, pour me déplacer sur le territoire français. Après, je pourrais le comprendre si tu me dis que tu habites à Strasbourg et que tu dois aller à Biarritz. Où,
c'est compliqué.
Il y a des diagonales du vide qui sont un peu compliquées. Ou même, tu vois, pour faire des Bordeaux-Marseille, je crois que tu es quand même un peu condamné de passer soit sur de l'intercité qui met 15 heures, soit de passer par Paris et ça coûte vite 800 euros. J'exagère, mais tu vois ce que je veux dire. En train, il y a des trucs, je condamne pas tous les transports, enfin tous les trajets en avion en France, mais il y en a quelques-uns pour moi qui font plus sens en 2024.
C'est sûr. Et tu disais que t'as pas beaucoup de haters, mais tu te fais quand même un peu bâcher justement sur l'avion et sur le fait que tu prends souvent l'avion, etc.
Rarement, parce que je pense que les gens se rendent compte quand même des efforts que je fais à côté d'un point de vue perso. Quand tu vas au fin fond de la Suède en train, quand tu vas au Maroc en train, quand tu vas en train de nuit en Sicile, il y a quand même plein de voyages que je fais en Europe en restant au sol. Et même en France, j'inspire grave les gens à voyager dans notre propre pays depuis de nombreuses années. Oui, ok, je vais au Japon pendant un mois, mais je pense qu'ils se rendent compte que ben, c'est mon taf. Et en fait, moi, je ne pense pas, c'est une réflexion qui évolue tous les jours, hein, ce que je vais dire. Donc, elle n'est pas ancrée dans le marbre, ce que je vais vous dire là, mais je pense qu'il ne faut quand même pas non plus fermer les yeux et se rendre compte qu'il y a 200 000 vols par jour dans le monde, je crois, en moyenne. Donc, juste dire arrêtez de prendre l'avion, je trouve que c'est se mentir à soi-même sur un modèle économique, sur un modèle sociétal qui existe et qui existera encore pour longtemps. Donc, moi, je pense qu'une de mes missions, c'est de dire OK, va au Japon. OK, tu vois, j'en repars. Parce qu'il y a plein de gens qui vont au Japon. Quoi qu'on en veuille, ils y iront et tout. Donc, moi, mon but, c'est plus de te dire va au Japon, mais vas-y pas pour 3 ou 4 jours. Reste-y le plus longtemps possible pour vivre une expérience incroyable. Et va pas uniquement à Tokyo, Osaka ou Kyoto. Va aussi au nord du pays où il y a personne, où je suis allé et où tu pourras vivre un truc incroyable. Prolonge ton séjour. Tu vois, c'est un peu ça mon discours aussi. C'est d'inspirer les gens à partir, pas loin si tu veux, mais pars-y longtemps. Et du coup, c'est un peu ça mon discours.
Et d'une autre manière. C'était quand même une manière plus locale, proche des gens, exactement. Et va vivre une expérience. Quoi.
Exactement. C'est un peu ce que j'essaye de prôner. Donc, c'est de trouver le juste milieu entre inspirer les gens, évidemment, à rester en France ou essayer de vivre des expériences en allant en Sicile en train de nuit ou que sais-je. Et après, si tu dois partir longtemps, pars longtemps. Mais moi, je vais t'inspirer à rester le plus longtemps possible sur place. Tout en acceptant, encore une fois, que, attention, je ne suis pas parfait. Mais pour reprendre un exemple concret de collaboration que j'ai refusé il n'y a pas longtemps, il y a une compagnie aérienne qui m'a proposé d'aller pour un long week-end aux îles Fidji. Moi, je suis en mode, putain, mais les Fidji, c'est au bout du monde. Et tu me proposes d'y aller pour 3 jours. Il y a un moment, c'est non, quoi. Genre, ouais. Je réfléchis même pas. Est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a une rémunération ou quoi? C'est direct, non. Ouais. Parce que c'est un non-sens. Voilà. Donc moi, c'est un peu ma réflexion du moment. Peut-être qu'elle aura évolué dans 3 ans et que je te dirais, putain, je suis trop con. Non,
je devrais vraiment
plus prendre
Fidji.
L'avion. Ou alors à l'inverse, genre je devrais aller au Fidji, tant pis, YOLO. Mais voilà, c'est ma façon de voir le tourisme aujourd'hui. Il y a plein de gens qui me diront qu'elle est trop poussée. Il y a plein de gens qui me diront « Oh là là, mais moi, j'ai que 5 semaines de congés payés, t'es bien mignon. » Et à l'inverse, il y a plein de gens qui me diront « Mais non, tu devrais plus prendre l'avion. » Mais en tout cas, c'est ma façon de voir mon métier et le tourisme aujourd'hui. Un autre exemple tout bête, je suis allé en République Dominicaine il y a quelques temps. Repdom, c'est réputé pour
l'all-inclusive.
Tu vas dans une destination uniquement pour rester dans ton hôtel 7 jours, manger à volonté, boire à volonté, etc. Moi, je suis allé en Repdom pour faire limite l'inverse et montrer que la Repdom, c'est aussi une culture hyper intéressante, des paysages incroyables, des gens à rencontrer, etc., etc. Et la vidéo sur YouTube comme sur Facebook, elle a fait des centaines de milliers de vues. Je me dis qu'en vrai, elle a une utilité, cette vidéo.
Carrément. C'est bien,
et
la Repdom.
Ah, incroyable. C'est il y a quelques années déjà, mais j'en garde des très bons souvenirs. Mais ça pour dire que du coup, ça a peut-être inspiré des gens à sortir de leur putain d'hôtel et à expérimenter la destination autrement et à redistribuer leur argent. Parce qu'en fait, il ne faut quand même pas oublier que notre plus gros pouvoir au quotidien, en voyage, c'est l'argent. Tu vois, là, je reviens du Maroc où j'ai fait une sorte de reportage sur l'après-séisme. Hyper intéressant, c'était un peu une des premières fois pour moi d'essayer d'utiliser ma voix pour faire une sorte de docu, rencontrer des assos locales sur place sur comment ça se passe et tout. Et en fait, quand tu prends du recul, le Maroc là, les dégâts qu'il y a eu, c'est 8% de leur PIB pour remettre sur pied comme était le Maroc auparavant. Ben, ça correspond littéralement aux 8% de la part du tourisme dans le PIB marocain. Si demain, les gens se disent tous, on arrête d'aller au Maroc parce qu'on a peur, parce qu'on n'a pas envie, etc., etc., c'est une double sanction pour la destination. Il ne faut pas oublier ça, tu vois. Notre argent, il a un pouvoir de fou. Là où tu vas dépenser ton argent, auprès de quel hôtel, auprès de quel artisan, auprès de quelle agence ou que sais-je, bon, en réalité, tu vas faire vivre des gens directement, de par l'argent que tu leur donnes, mais même indirectement d'un point de vue destination. Et c'est ce que je dis dans la vidéo YouTube qui sortira bientôt. Donc voilà, c'est un peu ma façon de voir les choses aujourd'hui.
C'est le DG de Nomad Aventure qui nous avait dit au micro là, il n'y a pas d'écologie sans économie.
Ouais.
Donc arrêtez en fait de juger facilement et de faire des raccourcis hyper faciles, et c'est ce que tu disais sur l'aviation.
Ouais.
En fait, voilà, il y a une économie. Maintenant, comment tu l'adaptes au mieux à l'écologie, à la planète et à tes envies ?
En essayant d'inspirer du mieux qu'on peut, en essayant de remettre le moyen de transport comme une vraie aventure quand c'est possible, comme le fait d'aller en Suède en train, etc. Et après, quand tu pars loin, en essayant de montrer des trucs alternatifs, en essayant d'inspirer à rester plus longtemps. Et après, chacun fait ce qu'il veut. Mais je pense pas que la solution, ça soit juste de dire « c'est pas bien de prendre l'avion ». Moi, je suis devenu végétarien il y a près de 10 ans déjà, donc avant que ça devienne aussi un peu plus, accepté
tendance,
socialement
quoi,
ou que sais-je. Parce qu'au début, moi, on me disait « oh là là, t'es végétarien, quel tocard ou quoi ». Mais et on me regardait avec des gros yeux dans les restos assez souvent, ce qui arrive encore aujourd'hui d'ailleurs, mais moins, on va dire. Mais moi, je suis pas devenu végétarien parce qu'on me disait c'est pas bien de manger de la viande. Je suis devenu végétarien parce que, je sais pas, j'ai pris le temps de me renseigner sur plein de sujets divers et variés qui m'ont fait me dire « ok, je vais devenir végétarien. »
C'est le meilleur choix pour toi.
Je vais essayer et on va voir. Et là, aujourd'hui, selon moi, la meilleure option, c'est de réduire au maximum. Mais quand je dois partir loin longtemps, bah, je pars loin longtemps et j'inspire les gens à rester loin longtemps si possible. Et pourquoi pas même à vivre ailleurs. Tu vois, Tokyo, on a fait une vidéo « Vivre à Tokyo » qui a quasiment 100 000 vues. Il y a aujourd'hui un visa de digital nomade où tu peux maintenant rester au Japon 6 mois. Et je trouve que ça peut être l'expérience d'une vie plus que de partir que quelques semaines. Tout le monde ne peut pas être digital nomade. De plus en plus, on peut dans plein de métiers, secteur tertiaire, etc. Et pourquoi pas ? Il y a des gens qui vont se dire « Ah ouais, je pensais y partir que 10 jours ou 2 semaines. » Mais après cette vidéo, j'allais partir 6 mois. Mais en vrai, c'est quand même plutôt cool.
C'est génial.
Et pour la personne, et pour le côté, je trouve, réflexion de la consommation, du tourisme, etc., etc. Ça sera une expérience différente pour toi et moins pire, peut-être, pour plein de points.
Carrément.
Voilà. Mais encore une fois, peut-être que dans 6 mois, je te dirais « Waouh !» En fait, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que j'ai dit il y a 6 mois. Je suis une grosse merde.
C'est quoi tes prochaines aventures ?
Là, je reviens à peine du Maroc en train. Donc, c'est déjà une belle aventure. Exactement. Il y a pas mal de travail pour faire une sorte de documentaire sur ce sujet-là. Après, j'ai beaucoup d'aventures qui arrivent en France et en Europe, mais en aventure lointaine. Je vais partir un gros mois aussi, encore une fois, aux États-Unis. Alors moi, j'ai mon meilleur ami qui habite aux US, à New York, et je suis le parrain de son fils. Donc déjà, c'est vrai que j'y vais notamment pour ces raisons aux États-Unis. Mais là, je vais aller dans des villes qui ne sont pas très connues pour justement essayer de donner envie aux gens de sortir des trucs trop touristiques. Je vais aller à Détroit. Donc, il y a une ville hyper intéressante et Memphis aussi, par exemple.
Trop bien.
Et sinon, je vais me perdre un petit peu partout dans les États-Unis un peu profonds, on va dire. Donc, ça, c'est un gros mois aux États-Unis.
T'as pas envie de faire de la télé ?
C'est pas un objectif de vie en soi. Moi, je suis encore une fois, je suis un enfant d'Internet. J'ai grandi avec Internet. Je trouve qu'Internet est incroyable. Et tu vois, par exemple, le docu que je compte faire, j'appelle ça docu, je sais même pas. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les termes de reportage, de documentaire, donc je fais attention, tu vois. Mais. En fait, je m'en fous qu'il fasse 32 minutes, 34 minutes, 27 minutes et tout. Alors que la télé, quand tu fais un docu, tu as un nombre de minutes à respecter pour que ça rentre dans les cases des programmes par rapport aux pubs, etc., etc. Moi, je trouve qu'on a cette chance-là sur Internet de faire globalement ce qu'on veut. Il y a un mec qui t'intéresse, que tu vas mettre 6 minutes en interview, mets-le 6 minutes, tu n'es pas obligé de le couper, en fait. Et je trouve qu'on a une chance incroyable de pouvoir... faire ce qu'on veut, en fait, sur le web, d'inspirer les gens et de le faire à notre sauce sans avoir forcément besoin, tu vois, de respecter des codes particuliers. J'en ai déjà fait un peu de la télé et en vrai, le côté genre, tu viens de la droite de l'écran, le professionnel que tu dois rencontrer vient de la gauche, tu te serres la main au milieu, bonjour Michel, comment ça va ? Je trouve ça un peu chiant et un peu trop acté pour l'instant. Après, si un jour il y a un programme qui me correspond à 200%, et tu vois, sur lequel je serais à l'aise, en face, par rapport à tout ce que je prône au quotidien, why not ? Mais pour l'instant, à chaque fois qu'on m'a contacté, c'était des trucs un peu nuls, où je me disais, ils veulent juste mettre un mec du web pour mettre un mec du web et essayer de toucher
rajeunir ta cible et la moderniser, etc.
Et ouais. C'est pas quelque chose qui me semblait me faire grandir, moi, par rapport à tous mes projets. Internet, c'est fou. Ça m'a
Merci, maintenant, grâce à toi, je vais aller beaucoup plus sur YouTube.
YouTube, Johnny Harris. Casey Neistat, c'est des mecs, mais ils te font des vidéos, mais ça pourrait passer en prime time sur TF1, France TV ou Arte, que sais-je. C'est incroyable. Johnny Harris, vraiment, moi, je suis grand fan de ce qu'il fait, par exemple.
Je vais regarder. Merci beaucoup, Bruno.
Merci à toi.
C'est la fin. Merci 1000 fois de nous avoir écoutés jusqu'au bout. J'espère que vous aussi, vous avez voyagé. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser 5 étoiles sur Apple Podcasts et un petit commentaire. On attend avec impatience vos retours et vos impressions. Et si vous aussi, vous avez envie de nous raconter un extraordinaire voyage ou une aventure au bout de votre rue, envoyez-nous un petit message sur Instagram. À très vite. Merci et à bientôt.